10h à 20h30. Donnez
dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est.
Bonne question, Yves Montand. Dans ma maison, je ne sais pas qui elle est. Mais c'est ça, en copropriété, en condo, oui, ça nous appartient, mais ça appartient à un paquet de monde autour aussi, puis c'est le principe même de ce type d'habitation-là. Lynn, alors, juste avant la pause, nous a dit, attention, oui, ça peut être agréable, c'est pas partout que c'est du trouble, mais elle dit, moi, mon expérience, là, c'est les conseils d'administration des copropriétés, tenez-vous loin de ça, c'est juste du trouble. Ça me rend un peu perplexe, puis pour tirer tout ça au clair, je parle avec Maître Yves Jolicoeur, avocat spécialisé en copropriété, secrétaire général du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Bonjour, M. Jolicoeur.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Merci de vous rendre disponible. Que sont les questions à se poser avant d'acheter un condo? Comment on fait pour savoir si c'est fait pour soi? Qu'est-ce qu'il faut absolument regarder?
Je vous dirais que la première question de base, est-ce que je suis prêt à vivre dans un cadre collectif? Parce que la copropriété, c'est avant toute chose partager en commun des actifs et assurer également en commun leur maintien. Donc, si on achète un appartement dans une propriété traditionnelle, on va partager en commun la toiture, les fenêtres, les entrées de garage, parfois toutes les composantes majeures du bâtiment. On va devoir en supporter évidemment les coûts et à prendre collectivement des décisions pour en assurer la pérennité. Donc, la première question, est-ce que je suis fait pour partager, échanger, convaincre, voire même convaincre ses voisins de la pertinence d'assurer le maintien de l'actif. L'autre chose aussi, est-ce que je suis prêt à faire face à des règlements internes qui vont limiter mon droit de jouissance dans l'immeuble? C'est sûr que là, si on demeure dans un bungalow traditionnel, ben, on a moins de soucis si le chien jappe, aboie parce que le facteur passe. Globalement, ça devrait être assez limité comme problématique, peut-être avec son voisin immédiat, mais en copropriété, ben, c'est souvent des murs qui sont peut-être des fois un peu minces, qui nous séparent de notre voisin. Donc, c'est certain qu'on va devoir être plus attentionné pour ne pas créer de la nuisance chez le voisin, avoir des comportements respectueux dans un cadre collectif. Donc, est-ce que je suis prêt à vivre dans ces contraintes-là? Si la réponse est oui, parce que les avantages de l'encôté peuvent être somme toute importants, on n'a pas besoin de se soucier de l'entretien, du gazon, on peut partir en fleurette et mettre la clé dans la porte, s'il y a beaucoup d'avantages, ben, les gens des fois oublient, ils ont également des responsabilités et obligations attachées à ce statut de copropriétaire. Donc, c'est des questions de base qu'il faut se poser. Évidemment, il faut essayer de comprendre les règles du jeu.
Est-ce que pour quelqu'un qui veut investir dans un condo, toute l'information disponible est pertinente et facile à obtenir ou des fois, faut peut-être gratter un peu plus? Madame Allard, vous l'avez entendu, nous disait, écoute, faut que tu regardes le fonds de prévoyance s'il y a de l'argent dedans, faut que tu regardes exactement c'est quoi tes droits, tes obligations. Est-ce que c'est des choses que les gens, un, consultent effectivement dans votre pratique? Constatez-vous que les gens se renseignent autant qu'il le faut? Et deux, est-ce que cette information-là est facile à obtenir?
Ben, je vous dirais généralement, on ne fait pas les vérifications nécessaires avant d'acheter un condo. Lorsqu'on transige sans courtier, ben, à ce moment-là, on est l'artisan de trouver toute l'information pertinente. Si j'ai un courtier immobilier qui m'accompagne et qui est un courtier de qualité, lui va faire les démarches pour obtenir les procès-verbaux, les assemblées, les lire, voir si les couvertures d'assurance sont suffisantes. Il y a énormément de travail à faire, ce qu'on appelle dans la vérification diligente, avant d'acheter un appartement. Alors, si on est, dans le fond, extrêmement sensible à toutes ces vérifications-là, on peut transiger direct. Si on ne l'est pas, ben là, ça se peut qu'avoir un courtier qui t'accompagne, qui fait ces vérifications-là pour toi, soit bien utile. Je sais, généralement, l'état d'humeur d'une copropriété se retrouve dans les procès-verbaux des assemblées générales. C'est sûr et certain que si on consulte avant d'acheter, il faut mettre une des conditions à l'achat, on s'aperçoit qu'à toutes les assemblées générales, les gens se traitent de tous les maux de la planète. Et en plus, il y a toutes sortes de poursuites et de chicanes dans la copropriété. Il faut que les lieux se tiennent bien loin de cet immeuble-là parce que c'est un immeuble qui est, dans le fond, contaminé par des gens qui ne devraient pas demeurer dans une copropriété. Il y a trop de chicanes internes ou encore on a un conseil d'administration de l'immeuble qui n'assume pas ses responsabilités parce que soit qu'il ne comprend pas ce qu'il doit faire, ou voire même parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors, il y a une vérification importante à faire avant d'acheter un condo. C'est pas forcément facile, j'en conviens. l'organisme d'auto-réglementation du complexe immobilier a créé l'an passé un formulaire pour justement faire toutes ces vérifications diligentes avant l'achat, de contrôler son offre d'achat. C'est pas pour rien, parce qu'il faut absolument tout faire cette vérification. Sinon, ben, si tu une profession de foi, tu achètes un condo,
tu te lances et tu vas avoir des découvertes.
Que tu achètes absolument.
Ouais. Madame Allard nous disait un des aspects qu'il faut examiner très attentivement, c'est la question des fonds de prévoyance. Est-ce que c'est exact que les fonds de prévoyance souvent sont mal capitalisés et que c'est un aspect qui est assez difficile à obtenir, ça, l'état d'un fonds de prévoyance?
Oui, en fait, vous avez raison, c'est une information très difficile à obtenir. En fait, la loi depuis 1994 enseigne qu'on doit, dans une communauté, constituer un fonds suffisant pour faire face aux réparations majeures et au remplacement des parties communes. La loi dit même également qu'on ne doit jamais mettre moins que 5 % du budget opérationnel. Mais en fait, la loi, c'est d'avoir assez d'argent. Globalement, au Québec, comme les bons latins que nous sommes, on a retenu le 5 % dans la loi et non pas l'essence même de la loi qui est de constituer les provisions de façon suffisante. Alors, généralement, on trouve un côté des fonds qui sont sous-capitalisés, qui sont, dans le fond, pas significatifs. Et la seule façon de savoir si on a provisionné assez d'argent pour les travaux futurs, c'est que le syndicat fait faire une étude de ce qu'on appelle de fonds de prévoyance par un professionnel qui a établi les besoins financiers annuels pour mettre en bâtir un fonds de prévoyance suffisant pour faire face aux réparations majeures. Alors, c'est assez compliqué. Justement, lorsqu'on la jette, dans les questions que je recommande à poser, un, avez-vous un fonds de prévoyance? Deux, quel est le montant du fonds de prévoyance? Puis le montant de votre fonds de prévoyance est-il appuyé par une étude qui démontre qu'on a suffisamment provisionné l'argent? Parce que dans l'état général du marché, actuellement, les condos qui ont 25 ans, là, ben,
sont dus pour des gros travaux, là.
Ben, énormément. Il y a des millions de dollars qui s'investissent dans les immeubles. Juste dans un immeuble, on a des crises à Montréal où on a mis près de 4 millions de dollars pour 40 unités. Vous avez dû imaginer, c'est près de 100 000 dollars par appartement parce que l'immeuble était dans une zone critique. Je comprends que c'est des cas exceptionnels, mais des cotisations spéciales à coût de 10, 15 à 25 000 dollars. On commence à voir ça de façon plus fréquente. Alors, imaginez-vous, vous venez d'acheter, puis le mois suivant, vous recevez une note syndicale en disant, ben, vous devez payer 15 000 dollars parce que la date le garage est en train de s'effondrer ou la voiture est placée. Vous allez réellement être déçu de votre achat. Vous allez en vouloir à votre vendeur, puis jusqu'à ce qu'elle va s'installer. Alors que si vous aviez fait des vérifications de base, ben, peut-être que vous auriez pu éviter les écueils. Donc, c'est compliqué d'acheter un condo. Beaucoup de vérifications, nettement plus importantes que d'acheter une maison traditionnelle qu'on peut facilement évaluer.
Maître Jolicoeur, vous avez lancé il y a quelques mois à peine, à la fin mars en fait, un nouveau livre, Travaux en condo, tout ce qu'il faut savoir. Pouvez-vous me dire c'est quoi les travaux exactement qui nécessitent un vote de l'Assemblée des copropriétaires? Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même sans référer à tout le monde et qu'est-ce qui est obligatoirement référé en Assemblée générale?
Bon, en premier lieu, il faut dire qu'il y a deux types de travaux. Il y a les travaux que le syndicat doit engager pour assurer la pérennité du bâtiment, puis les travaux que les copropriétaires, des fois, veulent engager pour améliorer, mettre à nouveau leur appartement.
Jouissance de son bien, là.
Ben, c'est ça. Donc, mais dans les deux cas, il se peut que les travaux soient des travaux de transformation des parties communes. Puis si les travaux, un exemple de transformation ou d'amélioration des parties communes, ben, le conseil d'administration n'a pas la juridiction, n'est pas habilité à les approuver. Il faut aller à l'Assemblée générale de copropriétaires et faire voter ça. Ce qu'on appelle une majorité renforcée. Et ça nécessite 75 % des voix de tous les copropriétaires, donc des majorités importantes. On le voit actuellement dans les condos au Québec. Les gens se sentent l'âme d'un castor bricolaire et décident de s'accaparer de l'entretoit qui n'était pas utilisé pour agrandir dans le domaine, faire des travaux, qui empiètent sur les lots communs. Alors, ça, évidemment, là, lorsqu'on fait ça, on crée des vis de titre dans l'immeuble, on fait des travaux qui sont dérogatoires à la déclaration de propriété, puis on se ramasse avec des soucis parce que le syndicat se doit son rôle de faire démolir ces travaux-là. Donc, il faut bien comprendre les règles du jeu. Puis c'est pour ça que cet ouvrage sur les travaux en copropriété, je l'ai élaboré pour répondre à un besoin du grand public, à savoir qui décide quoi en matière de travaux.
Bien, c'est ça. Il ne faut pas se lancer là-dedans naïvement puis penser que tout va bien aller parce que tu es une bonne personne. Il faut être bien conscient qu'on vit avec du monde à côté de nous qui n'ont pas forcément le même style de vie puis les mêmes valeurs. Maître Jolicoeur, il y a autre chose qui m'intéresse. Ici, dans la région de Québec, ça a fait beaucoup jaser. C'est jusqu'où est-ce qu'une société de copropriétaires, une assemblée générale, peut aller en matière d'accommodement raisonnable. Il y a eu ici un monsieur qui avait besoin d'un chien guide dans sa copropriété. Et c'était un non-voyant, bien entendu, il en avait besoin. Et de façon, en tout cas, c'était perçu comme assez mesquine. Le syndicat de copropriétaires dit non, nous autres, on veut pas de chien en place, puis non, tu ne l'utiliseras pas. Comment est-ce qu'on départage les droits des uns et des autres? Parce que le monsieur est non-voyant, il a besoin d'un chien, mais le syndicat a le droit de dire pas de chien dans l'immeuble. Comment on peut tirer ça au clair?
En fait, il faut comprendre qu'on a une sorte de droit et liberté qui nous oblige, en toute circonstance, de procéder à des accommodements raisonnables. Et c'est vrai pour des questions de chien guide, ça peut être vrai par une sorte de droit religieux. J'ai été jusqu'en Cour suprême, une problématique à Montréal des sous-cas. Et depuis cette décision de la Cour suprême, les règles de jeu sont relativement claires. Le conseil d'administration de la Cour d'été se doit d'évaluer au mérite les demandes qui s'inscrivent dans des droits qui sont protégés par la Charte des droits et libertés. On peut parler d'handicap visuel, d'handicap physique. On a une cause assez importante dans la région de la Rose, où une dame qui se fait d'obésité morbide a demandé d'avoir un espace de stationnement qui était plus proche de l'entrée de l'immeuble. On commence à s'apercevoir que la Charte a un impact et que les administrateurs ne sont pas du tout préparés à gérer ces demandes-là. Alors, ça en passant, on organise à la mi-novembre un colloque à Montréal sur la question de la Charte des droits et libertés. On va voir la présidente du tribunal des droits de la personne qui va être là, récemment la commission des droits de la personne, justement pour adresser tous les cas d'espèce qui traitent de la Charte des droits et libertés. Ça peut être jusqu'à la question des caméras vidéo. Vous savez, on a des caméras vidéo qui ciblent l'entrée et venue des copropriétaires. Certains prétendent que ça...
C'est la tête à la vie privée.
À la vie privée. Monsieur qui parle avec la bonne madame, qui a fait ça, des gens indélicats pourraient faire envoyer la cassette un peu partout. C'est un sujet qui malheureusement interpelle la communauté. Parce que la communauté, c'est avant toute chose de vivre dans un cadre collectif. On n'est pas au refus dans notre propriété. On le partage avec d'autres. Et on doit composer de façon raisonnable avec tous ses droits. Mais ça ne veut pas dire qu'en tout cas, dans tous les cas, les administrateurs doivent donner suite à une demande fondée sur un élément qui est sauvegardé par la Charte des droits et libertés. Là. C'est une personne qui demande de faire des travaux qui s'en coûte $1 million à la copropriété. Bien, la demande pourrait être
jugée raisonnable.
Déraisonnable. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Effectivement, c'est tellement compliqué qu'au niveau du recoupement, je vais approprier dès cet automne prochain de faire un colloque sur cette question-là.
De tout ce que vous m'avez dit dans les dernières minutes, je comprends que quelqu'un qui est intéressé à s'acheter un condo, de grâce, adjoignez-vous les services d'un courtier parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Est-ce que c'est un résumé correct?
Moi, je pense que c'est dans l'achat de condo, là, à moins qu'on sorte de la pensée magique, là, ça prend un courtier immobilier. Mais en cette matière, moi, je suis d'opinion que c'est une pratique spécialisée, la transaction condo, et que d'ailleurs, c'est le cas de déontologie des courtiers immobiliers là, qui les oblige. C'est pas n'importe qui est apte à faire une transaction condo. Il faut s'assurer que celui qui fait la transaction condo pour un courtier ait les compétences requises pour le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier et on ne peut pas s'improviser. Puis effectivement, il y a des courtiers qui suivent une formation spécialisée. On en a monté une avec la Fédération des chambres immobilières pour les courtiers. Une formation de plus de 28 heures spécialisée sur le condo pour justement que les courtiers constituent une véritable valeur ajoutée dans la transaction. Ça, je ne veux pas dire que ceux qui ne suivent pas sont pas bons, là, mais ceux qui l'ont suivi, c'est parce qu'ils sont, dans le fond, passionnés par cette question-là de la complexité. Moi, je pense fondamentalement qu'un courtier de qualité est une valeur ajoutée et ça peut éliminer, somme toute, beaucoup de soucis dans une transaction.
Et une autre façon aussi de se tenir au courant de nos droits et obligations, c'est peut-être de se procurer votre livre récemment paru, Travaux en condo, tout ce qu'il faut savoir. Maître Yves Jolicoeur, merci beaucoup de vous être rendu disponible. C'était très éclairant.
C'était un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.
À vous aussi. Au revoir.